leur rappelle que c'est comme mon frère, c'est pas tenu en fait. Après, je verrai.
C'est une connexion.
Ok.
Sinon, lui, tu vas te retrouver en rade.
Bon, on va se lancer. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Arthur Charpentier. Je suis un enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques à Rennes 1. Et je vais vous faire un petit exposé. Alors, l'histoire complète, j'avais été contacté à l'époque par Françoise et par Laurent. Quand ils m'avaient parlé de carte au stade, j'étais emballé à l'idée de venir. Puis après, ils m'ont dit qu'en fait, c'était pour que je parle. J'étais un peu moins emballé. Et à force d'insister, ils me demandaient un titre. Alors, j'ai mis un titre qui est La ville en économie. Parce qu'à l'époque, en tout cas, quand j'avais balancé le titre, je m'étais dit c'est marrant, c'est un truc sur lequel je travaille et je pourrais peut-être discuter autour de ça. En fait, je ne suis pas certain que ce soit ce que je raconte dans mes slides, mais disons que ça va être mon point de départ. En tout cas, ça va être le point d'arrivée. Ça va être le point de départ, le point d'arrivée, puis on fera des petites digressions. Mais avant, je voulais faire un dessin au tableau, parce qu'en fait, en écoutant les interventions ce matin, je m'étais dit que j'allais peut-être expliquer un petit peu ce que je fais dans la vie. C'est moi, je suis enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques, mais j'ai une formation en maths. Donc j'ai un doctorat en maths, une habilitation à diriger des recherches en maths. Donc je suis, je pense assez fondamentalement matheux. Alors les matheux ont une fâcheuse tendance à toujours réinventer le monde. C'est ce qu'on apprend quand on est petit, qu'on peut tout redémontrer, qu'on peut tout refaire. Donc j'ai toujours, vous aurez sûrement l'impression que je réinvente la roue constamment, mais en fait j'ai envie de dire que c'est pas que de ma faute. J'ai été formé pour ça. Donc je vais vous montrer des choses qui vont paraître triviales. Et le point, et c'était un peu ce qu'on évoquait avec Reka ce matin, c'est que je suis là essentiellement pour nouer des contacts avec des cartographes pour qu'ils m'aident, parce qu'essentiellement, moi, je suis un peu du côté obscur, je suis du côté data. Je suis sur le côté stat, de carte au stat, et j'avoue avoir beaucoup de limites sur le côté carto, et donc je suis très très ouvert à des discussions. Donc juste pour reprendre, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de malentendus, je vais vous faire des petits dessins. Donc ça, c'est des données. Enfin, imaginez, hein. c'est des gens qui ont des informations. La plupart du temps, en fait, on n'a pas vraiment accès à ces données. Moi, je travaille en particulier un petit peu en ce moment sur les problèmes d'inégalité, les inégalités de revenus. Ça peut être aussi des inégalités un peu plus compliquées, comme des inégalités d'éducation ou de santé. Donc, les inégalités de revenus, c'est le truc le plus simple en économie parce que derrière, on a des mécanismes de transfert. Donc, on est capable de dire, je peux créer un indice d'inégalité, ça permet de quantifier un petit peu le degré d'inégalité dans une population. Et derrière se cachent des mécanismes de compensation, donc on prend de l'argent à quelqu'un pour donner à un autre, on peut mettre en place des taxes et on peut faire des choses assez simples d'un point de vue économique. Les inégalités en termes de santé, c'est plus compliqué. Si jamais je me dis, il y a quelqu'un qui va vivre 100 ans, puis quelqu'un qui va vivre 50 ans, c'est inégalitaire, mais je ne peux pas dire, ben toi je suis désolé, mais tu vas mourir à 80 ans, puis les 20 ans, on va les filer à quelqu'un. En fait, le problème, c'est ce qu'on essaye de faire. En gros, ça va être de dire, peut-être que si jamais ils vivent aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont des super hôpitaux et les autres ne les ont pas. Donc en fait, il faut essayer de comprendre où sont les hôpitaux, où est-ce qu'il y a une forte demande de santé, puis essayer de transférer autant que possible les médecins. Donc on va essayer de passer par un autre mécanisme que par les transferts d'argent pour restaurer un petit peu d'équité et d'égalité en termes de soins. Mais bon, je m'éloigne un peu de mon propos. Mon propos, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont un revenu, et généralement, on n'y a jamais accès, surtout en France, puisque c'est une information qui est incroyablement cachée. Et donc il y a un premier volet qui est que la plupart des organismes qui fournissent des données font un premier travail. C'est-à-dire qu'on n'a jamais accès à ces données, par contre on a accès à des tableaux. Okay, donc c'est un petit peu ce qui était évoqué, moi je pense en particulier au graphique qu'avait montré Philippe ce matin, où il montrait le vide et le plein, qui est un graphique que j'aime beaucoup, où effectivement on voyait les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Et c'est ce que je disais, moi j'ai un souci avec ce graphe, c'est que... quand je le vois, naturellement, je me dis, il y a les gens les plus riches et les gens les plus pauvres, mais en fait, on n'a pas accès aux gens. Le graphique de gauche ne représentait pas les personnes les plus riches, mais représente vraiment les personnes qui vivent dans les pays les plus riches. Et donc, à l'intérieur, se cachent des inégalités fortes entre les gens dans un pays. Donc, à mon avis, le vrai graphique, il est encore pire que celui-là. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, on devrait prendre que les riches. On devrait aussi prendre les gens très riches en Angola. On devrait prendre les gens très très riches dans certains pays. Et on devrait aussi avoir des gens très très pauvres, y compris aux États-Unis, dans la partie de droite. Donc on devrait avoir un graphique qui devrait être encore plus incroyablement différencié entre le vide et le plein. Mais le problème, c'est que je pense que Philippe ne pourra jamais le faire, ce graphe, parce qu'on n'a pas accès à ces données. Alors on a accès aux revenus des plus riches quand même. Les plus riches, on peut faire pas mal de choses. Mais ces données-là, on n'y a pas accès. On a accès à des données qui sont souvent synthétisées. Et donc c'est en gros ce que nous fait l'INSEE. L'INSEE nous donne accès à des données, mais qui sont toujours, c'est ce que raconte tout le monde en disant c'est génial l'open data. L'open data, c'est que vous avez accès à ça. Et ça, et ben derrière, il y a un énorme problème, c'est que pour passer de ce nuage de points à un tableau, il y a une opération qui va être créée, on va regrouper. Donc on peut regrouper en mettant des quantiles, on peut regrouper, alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt par zone géographique. Donc éventuellement, on va regarder par zone iris, par commune, par département, donc on va regrouper par des grandes catégories. Et le problème, c'est que les regroupements, souvent, fausses analyses. Donc moi, je travaille pas mal en ce moment sur les problèmes de ecological fallacy, donc le paradoxe écologique qui nous dit que travailler sur des données agrégées ne permet jamais, disons moyennant beaucoup de contrôle, d'inférer des comportements individuels. Donc ça, c'est un énorme problème que connaissent beaucoup de gens qui travaillent un peu en sciences politiques. C'est que les données agrégées, ça pose un biais énorme. Et celui-là, on n'en parle pas très souvent, parce que c'était un petit peu la vision que j'avais quand Philippe nous parlait un petit peu de sa démarche en tant que cartographe, où effectivement, il a des données. Ensuite, il va nous faire une carte. Donc, on a un cartographe qui va se trouver ici. Et ensuite, il y a la question du petit bonhomme qui a envie de regarder et qui se pose la question de savoir s'il a compris. Donc ça, c'est l'exposé qu'on avait eu tout à l'heure, où on s'intéressait au point de vue de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a bien compris ce qui se faisait ici? Philippe évoquait un petit peu le lien qui pouvait exister entre ces données et la personne, le récepteur de la carte. Et en fait, moi, je suis beaucoup plus en amont de tout ça. Moi, je suis vraiment sur cette partie-là. Je suis vraiment sur la partie de gauche, où j'essaye de travailler. Donc Philippe prétend faire la cartographie radicale ou critique. Moi, je suis plutôt sur la stat critique. Moi, je suis vraiment sur le questionnement de est-ce que les données sont si neutres que ça, ou est-ce que derrière se cache un problème de construction qui va dénaturer de toute façon le message qu'on essaie de faire passer. C'est que, effectivement, il y a une grande part de caché, de sous-entendu dans la représentation cartographique, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de codes qui sont cachés dans ces agrégations et qui ne sont pas forcément maîtrisés. Déjà, parler de médiane au lieu de parler de moyenne, c'est quelque chose qui peut être un peu déroutant. Donc il y a pas mal d'outils statistiques qui sont cachés et qu'on ne voit pas souvent et sur lesquels il faut faire un petit peu attention. Donc c'est pour ça aussi que je viens pour les complémentarités, c'est que j'adore discuter avec Philippe, parce que Philippe a vraiment le point de vue par ici, moi j'ai le point de vue là, et j'ai l'impression qu'en discutant ensemble, on est capable d'aller d'un bout de la chaîne à l'autre. Il y a un autre point qui a été très légèrement évoqué ce matin, c'est le gros mot de modèle. Le fait qu'on puisse avoir éventuellement une boîte noire qui va nous faire passer des données, enfin des vraies données auxquelles on n'a pas accès, à quelque chose qui peut être un peu simplificateur. Okay, donc on peut faire une régression, on peut essayer d'extraire l'information à partir de variables dont on dispose et ensuite essayer de la représenter. Donc c'est un petit peu ce qui était évoqué, je pense, tout à l'heure, hein, quand on nous disait que les données n'étaient pas retravaillées. On peut les retravailler, on peut construire un modèle. Et il y a un point sur lequel, enfin je reviendrai peut-être quand je présenterai on dit pas le slide, la diapositive, tout à l'heure, c'est qu'en fait, on arrive à un problème qui est que nous, on travaille sur des données spatiales, donc on essaye de visualiser quelque chose, et en fait, la question qu'on est en train de se poser en ce moment, c'est est-ce que, disons qu'on on a des résultats qui sont un petit peu étranges par moment, et la question c'est est-ce que c'est la visualisation qui pose le problème, ou est-ce que c'est le modèle qui pose un problème? C'est qu'on n'a pas suffisamment, on ne peut pas visualiser nos données, et vu qu'il y a ce modèle qui a été construit et la carte, on se demande finalement d'où vient le souci. Est-ce que c'est une hypothèse qu'on a faite quand on a supposé qu'on avait des coupes convexes qui va faire que tout d'un coup les points deviennent très très rouges dans certaines régions, ou est-ce que c'est juste un choix au niveau de la carte? Donc, j'ai l'impression que se focaliser uniquement sur cet aspect-là, c'est un petit peu dangereux, parce qu'il ne faut jamais oublier la partie qui se cache en amont, qui est la partie stat. Donc voilà, donc j'insiste sur la partie stat de CartoStat, mais il y a tout un travail important sur l'aspect stat qui... sur lequel il faut faire un petit peu attention. Voilà, donc c'était le petit préambule que je voulais faire, parce que sinon après ça va sortir et je vous dirai. Donc voilà, donc je voulais parler un petit peu de ville en économie. Donc je vais présenter un petit peu des choses un peu récentes. Donc je vais parler de ma vie en fait, parce que c'est des trucs que je raconte, que je suis un peu récent. Donc il y a des travaux qui sont faits avec Ewen Galli, qui est présent dans la salle. Donc Ewen commence son post-doctorat avec moi sur les problèmes de démographie. Et on travaille aussi avec Alfred Galichon qui est à New York et à Lucas qui est à Sciences Po Paris sur des problèmes, alors sur les, on verra, c'est des problèmes de réseau. Donc on essaye de créer des réseaux et de, je le dis un peu rapidement, mais on essaie de classer les maternités et de classer des stations essence. Voilà. En gros, le problème ne nous intéresse pas trop, ce qui nous intéresse c'est la méthodologie et on essaye donc d'appliquer ça à des données dont on dispose. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de présenter, mais pour ça, il faut que je puisse bouger. Il n'est pas content, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc le point de départ, je m'étais dit, je vais quand même essayer d'expliquer un petit... Alors moi, je voulais parler de la ville, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait une confusion entre carte et ville. Je sais pas si c'est Michel Buteur. Enfin, pour moi, quand je pense à une carte, je vois tout de suite une ville. Et je m'étais dit, je vais revenir un petit peu sur la place de la ville en économie. Parce qu'en fait, c'est un truc un peu bizarre. L'économie spatiale, enfin, pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'économie, que ce soit au lycée ou même que ce soit à l'université, en fait, on aborde assez rarement en fait, les problèmes spatiaux. Pour tous ceux qui font des cours de microéconomie, par exemple, on nous explique qu'il y a des biens qui sont interchangeables. Que machin, il vend des carottes, que bidule, il vend des carottes, et qu'en fait, ils doivent se mettre au même prix, parce que sinon, il y aurait un arbitrage possible, etc. Mais bon, si jamais ils sont à 200 km l'un de l'autre, on a envie de dire, mais ce n'est pas exactement le même bien. Donc le problème spatial, il est complètement oublié généralement des manuels d'économie. Et en particulier, donc, quand on parle des biens des consommateurs, on dit ils ont un panier de consommation, donc ils ont des carottes, des légumes, des machins qui vont être infiniment divisibles. Et donc si jamais il veut 0,23 carottes, il n'y a pas de souci, on lui vend. On peut trouver un prix qui peut être au milliardième de centime près. Il n'y a pas de souci, on peut faire des calculs de dérivés, on peut faire des maths et on est content. Mais le gros problème, et ça par contre c'est un problème qui était reconnu assez longtemps, c'est que en économie, il y a des biens qui sont indivisibles. Ça peut être construire un stade de foot, ça peut être de construire une université. Et ce truc-là, on ne peut pas dire, bah, comme la population n'est pas très grosse, on va construire 0,23 universités ici. Donc la question est plutôt où est-ce que je la localise. Donc on a besoin d'avoir toute cette réflexion sur les aspects spatiaux et essayer de comprendre un petit peu où vont se localiser les... pour faire simple, en économie, on a des acheteurs, des acheteurs, des vendeurs, des producteurs, des consommateurs. Donc, où se répartissent les différents agents? Alors, la ville, on sait depuis assez longtemps, quand même, en économie, qu'elle est... C'est un truc qui est au centre de quelque chose, qui est au centre d'une région. Donc, la ville, essentiellement, je pense, depuis fin de tunnel, on sait que c'est une concentration. Et autour, on va avoir de la région. Donc, on a une ville qui est assez circulaire. Alors ce que disait Fontunen, c'est que c'était lié à des notions de valeur de rente. C'est que la valeur de logement, c'est plus important que de l'espace qui est réservé à la production de carottes et qui est plus important que la production de prairies, des choses comme ça. Donc on a des espèces de cercles concentriques qui permettent d'expliquer la construction des villes. Donc pour Fontunen, les villes se construisent comme ça. C'est vraiment cette notion de ville monocentrique. Où on a ce centre, et puis autour, il y a... Alors, à l'époque, c'était de l'agriculture, mais maintenant, ça va être des habitants. Donc, on a cette notion de ville centrique. Sauf que, quand vous demandez à un économiste ce que c'est la ville, alors, je vais vous montrer un plan qui va vous faire peur. Voilà le plan basique en économie. La ville, c'est ce qu'on appelle la ville linéaire, où on a un segment sur lequel se situent des gens. Donc, c'est la ville de Hotelling, et c'est à peu près le summum de ce qui se trouve dans les manuels d'économie quand on demande ce que c'est qu'une ville. C'est un truc qui ressemble à ça. Donc on a des gens qui sont dispersés sur un segment, 0,1. Et là-dessus se met en place toute la théorie de l'économie géographique qui consiste à dire où est-ce que vont se placer les firmes. Donc le point de départ de l'économie géographique, c'est de dire on va supposer que les agents sont disposés dans l'espace et on va essayer d'implanter des entreprises qui vont fournir une force de travail. Puis éventuellement, il y aura un jeu dynamique qui va se créer. Mais le point de départ, c'est vraiment cette ville telle qu'elle a été imaginée par Hotelling et qui reste la référence centrale en économie. Alors l'avantage de cette ville, c'est qu'elle elle légitime le CBD. Donc elle légitime l'idée qu'il y a un centre d'affaires et que finalement la population va se répartir autour. Alors je peux juste revenir sur la construction pour vous expliquer quand même l'idée d'Hotelling parce que c'est la base de l'économie. Voilà. Donc on a deux firmes qui veulent se disposer sur l'espace. Donc ma ville, elle est vraiment... Enfin, encore une fois, le plan de la carte de la ville est un peu débile parce que c'est ce trait. Donc c'est une notion de Main Street. On a juste la Main Street. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de petites rues qui permettent d'aller autour. Il faut se positionner sur cette Main Street. Et donc ils vont se livrer une espèce de concurrence. Donc les deux villes se positionnent un peu au hasard, puis on se demande où est-ce qu'on converge. Donc ça, c'est les notions d'équilibre qu'on a en économie. Où on se demande est-ce qu'il y a un endroit qui va être stable. Et dans ces cas-là, va arriver la notion d'équilibre. Et si on a un équilibre, c'est ce qu'on devrait effectivement observer dans la vraie vie. Donc là, on met les villes, les deux firmes un petit peu au hasard, puis il y en a une qui, elles vont se répartir le marché. Alors le point de départ d'Hotelling, c'est de dire, les consommateurs, si jamais les prix sont identiques, ils vont aller à la firme la plus proche pour aller acheter leurs produits. Donc vous avez genre deux producteurs de carottes, vous voulez vraiment manger des carottes, vous allez au plus proche parce que c'est plus simple. Voilà, donc on est dans la même suite, on se balade. Mais le A, il va se dire, mais peut-être que je peux me déplacer un peu. Si jamais je me déplace un petit peu, en fait, j'augmente ma part de marché, donc j'augmente mon profit, etc., tout ce que vous voulez. Et disons qu'il a intérêt à se déplacer. Donc il a même carrément intérêt à se coller à l'autre, et comme ça il rafle quasiment tout le marché. Donc on voit que la stratégie optimale, c'est qu'il y a un regroupement d'entreprises. Donc après, on peut la légitimer en disant qu'il y a du partage de connaissances, mais disons qu'on a intérêt à avoir des proximités et des centres dans lesquels ils vont se concentrer. Alors, si vous réfléchissez deux minutes, vous dites, ouais, mais il n'y a pas que A qui va faire ce raisonnement, c'est que si jamais je reviens ici, A, il a intérêt à se rapprocher de B, mais B, il a intérêt à se rapprocher de A, et donc tout le monde converge. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est ce que montre le Hotlink, c'est que l'équilibre qui va exister dans cette ville, dans cette carte, c'est que les entreprises se localisent précisément au centre et qu'elles se partagent la moitié du marché. Voilà. Et ça, c'est le résultat d'Hotlink qui date d'il y a presque 100 ans. Alors, je schématise un petit peu, mais en gros, l'économie n'est pas allée beaucoup, beaucoup plus loin dans la construction de l'espace et de l'endroit où se trouvent les villes. Alors, il y a eu pas mal de discussions qui essayent de montrer effectivement, ou de discuter en tout cas les hypothèses, du fait que la population est uniforme, c'est débile. Mais d'un autre côté, ça tend à renforcer l'idée que les villes, en fait, sont des concentrations humaines. C'est qu'effectivement, si même les entreprises se localisent ici, bah, les enfants des générations futures, ils vont aussi peut-être se dire, bah, j'ai pas intérêt à habiter trop loin, parce que c'est loin pour aller acheter mes carottes, j'ai intérêt à me rapprocher. Donc la population va commencer à se concentrer, les firmes vont se concentrer, et donc on rentre dans une espèce de spirale où à la fois la population et les entreprises se localisent en un centre. Donc ce qui peut justifier en fait l'idée du CBD qu'on voit en géographie. Alors, il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites. Donc là, c'était un papier qui avait été fait par Fujitaitis il y a une vingtaine d'années, qui essayait de montrer qu'en changeant des tonnes d'hypothèses sur ce petit modèle, donc dans la carte la plus bête du monde, le segment 01, on peut quand même arriver à des villes un peu plus compliquées. Donc on peut arriver à des villes qui seraient monocentriques, on peut arriver à des villes qui seraient partiellement mixtes, donc on pourrait avoir intérêt à avoir des concentrations d'entreprises un petit peu séparées. On pourrait avoir des trucs complètement mixtes, on peut avoir du duocentrique, on peut avoir des choses un petit peu dans tous les sens. Mais la ville restait fondamentalement en dimension 1. Donc je vais quand même essayer d'arriver à une autre dimension, parce qu'on imagine qu'une carte, c'est pas juste sur un trait, parce que sinon les cartes, ça serait pas très très joli. Donc la première étape pour passer à la dimension 2, c'est le papier de Salop de 79, qui consiste à dire, bah, je vais tenter un truc qui est ce qu'il appelle une ville circulaire. Donc c'est la première carte qu'on peut trouver dans les manuels de géographie, d'économie. C'est cette ville où on a une espèce de route et les entreprises doivent se positionner. Et là, ce qu'on peut montrer, c'est qu'elles ont intérêt à s'éloigner le plus possible. Donc autant dans la ville linéaire, on avait intérêt à se concentrer, autant ici, on a intérêt à se séparer justement pour accaparer le plus de monde. Donc on a cette ville, mais en fait, le problème, c'est quand on y réfléchit, on n'est pas encore en dimension 2, c'est que c'est un peu débile, cette ville. RS, fondamentalement linéaire. C'est juste qu'on a courbé notre main street, mais on reste sur un problème en dimension 1. Donc les extensions qu'on voit arriver, c'est l'idée éventuellement qu'on peut avoir une ville en étoile. Donc ça, c'est les cartes aussi qu'on voit apparaître. Donc on a des routes qui vont se croiser en un centre. Alors l'idée du centre, c'est parce qu'Hotelling a montré que c'était fondamental d'avoir des centres. Mais après, on peut se dire, mais c'est un peu ridicule. Si jamais on réfléchit deux minutes, on a peut-être intérêt à faire un chemin. Je veux dire, on peut très bien imaginer, on fait un boulevard périphérique. On peut commencer à imaginer tout d'un coup qu'il existe autre chose que ces routes linéaires. Alors, je résume un petit peu l'évolution de l'économie ces dernières années, qui est un peu simpliste, mais c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire qu'il y a une économie géographique qui consiste à se demander où vont se positionner les firmes, et il y a un champ qui est relativement séparé, qui est l'économie des transports. Mais si on réfléchit un petit peu, on se dit qu'il faudra peut-être quand même que les deux discutent un jour. C'est que penser la répartition dans l'espace sans penser les routes, c'est un peu ridicule. Donc la difficulté, c'est, ok, c'est mignon ce dessin avec une espèce d'étoile et un rond, mais est-ce que c'est réaliste? Donc si on regarde ce qui avait été proposé dans la littérature, alors c'est à peu près à l'époque d'Hotelling, on voit arriver les premiers vrais réseaux. Donc en particulier Christaller qui nous montre effectivement qu'on peut avoir des structures de réseaux qui peuvent exister entre les différentes villes. Donc, et c'est effectivement des situations d'équilibre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit apparaître donc la fascination, alors il y a eu plusieurs travaux allemands à cette époque-là, la fascination pour les hexagones, que la structure optimale serait sous forme d'hexagone. Donc on aurait un centre incroyablement dynamique et puis des petits centres locaux autour qui vont être de plus en plus petits, puis tout d'un coup on aura une autre ville qu'on va essayer de relier par des axes. Donc on voit arriver tout d'un coup la notion de ville en réseau qui va devenir intéressante, mais quand on commence à créer un réseau, on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu idéaliste de travailler sur un réseau comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire un réseau un peu plus réaliste? Donc à peu près à la même époque, il y a aussi tous les travaux de Loche qui travaillent à peu près sur la même chose, qui essayent de créer des réseaux et qui arrivent aussi à des hexagones. Et donc on a envie de se dire, donc on a tous les travaux après qui vont arriver dans les années 70 sur la constitution de réseaux entre villes. Alors le gros problème, c'est que tous ces travaux sur les réseaux et la construction, les connexions entre villes ont été incroyablement connotés politiquement, puisque ça s'est pas fait dans une perspective de comprendre la construction des villes en Europe, mais ça a été plutôt fait dans les pays en voie de développement. Et donc tout d'un coup, on a vu arriver une espèce de vision un peu européenne-américaine qui consiste à dire dans les pays développés, développez-vous comme ça parce que c'est l'optimum. Il faut mettre des villes séparées, mettre des routes, et puis donc essayer de créer cette structure un peu théorique qu'on avait en économie, et essayer de la mettre en œuvre pour de vrai. Donc l'économie, en gros, commence à se rendre compte qu'il faut tenir compte du fait que les villes sont un peu plus complexes que la ville linéaire et qu'on a des réseaux. Donc ça, c'est les travaux qu'on commence à faire un petit peu avec Alfred et Lucas, qui consistent à dire qu'en fait, on va revenir sur des notions de réseau. Alors les réseaux, c'est bien, mais ça, c'est hyper contre-intuitif. C'est que si jamais je me dis, donc là c'est Paris, enfin c'est le réseau de métro de Paris, et le problème, c'est que si on commence à penser la ville via ses transports, ces transports en commun par le métro, ben tout d'un coup les notions de distance, elles vont changer. C'est que classiquement en économie, on a envie de se dire, j'ai un espace qui est plan, je vais prendre une distance euclidienne, je vais tenir compte du coût que j'ai pour me déplacer, ça va être proportionnel à la distance, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que la distance euclidienne, c'est une notion pertinente quand on travaille sur un vrai problème? C'est pas évident. Et donc la première chose qu'on peut voir, c'est que quand on fait des Voronoi sur des espaces dont les métriques ne sont pas les métriques classiques euclidiennes, donc ça c'est le Voronoi standard. Donc Voronoi, c'est ce que nous on appellerait en économie les zones d'affluence. Donc j'ai des magasins, des hôpitaux, et on se demande qui est-ce qu'ils vont pouvoir attirer. Donc si jamais vous raisonnez en norme L2, vous prenez les plus proches voisins, donc tous ceux qui sont marrons, ils devraient aller à cet hôpital-là. Ou à ce Apple Store, si vous voulez. Enfin, vous mettez le nom que vous voulez sur la boutique. Et donc, c'est les personnes qui vont pouvoir attirer. Le problème, c'est que quand on se dit que les gens se déplacent exclusivement en métro, tout d'un coup, la zone d'attraction, elle est beaucoup plus petite. Donc, on se rend compte que travailler sur des réseaux, ça va complètement changer les métriques, et que, faut faire toute l'analyse depuis le départ. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait essayé de faire sur des problèmes assez simples. Donc, sur des problèmes de ce qu'on appelle en économie des matching bipartites, où on a des consommateurs, des producteurs, et on se demande comment est-ce que je fais pour les allouer. Voilà, donc je vous ai fait un petit exemple juste pour vous montrer. Alors, techniquement, c'est juste de la recherche opérationnelle. Il n'y a rien de super malin. Mais disons qu'on a des gens qui veulent, les gens qui sont éventuellement en vert, qui veulent aller se rendre dans un magasin en orange. On peut rajouter des contraintes. D'ailleurs, je peux dire qu'éventuellement, chacun magasin a un seul produit à vendre. Et là, je joue le rôle du planificateur optimal, et je me dis comment est-ce que je vais faire un matching, comment est-ce que je vais les allouer, où est-ce que je devrais envoyer chacune des personnes pour minimiser les distances ou ce genre de choses. Donc c'est le même problème qu'on a quand on va implanter une caserne de pompiers, par exemple. Où est-ce que je dois l'implanter pour que 95% des gens puissent être sauvés dans un délai de 40 minutes, okay. Donc c'est à peu près le même genre de question, sauf que les pompiers ne prennent pas le métro, mais c'est ce genre de question. Donc c'est des travaux qu'on a commencé à faire. Alors, on l'a fait dans deux contextes. Le premier, c'est les problèmes d'études de maternité. Donc on essaye de voir un petit peu où alors, les données qu'on a, c'est les données par commune. Donc on sait le nombre de femmes enceintes qui habitaient dans chacune des communes, et on sait où sont les maternités. Et donc on est capable de dire, compte tenu du nombre de personnes qui étaient enceintes, voilà où est-ce qu'elles auraient dû accoucher, si jamais elles avaient uniquement regardé, supposons qu'elles ont tous les mêmes niveaux, tous les mêmes prix, voilà où est-ce qu'elles auraient dû aller. Et donc on arrive à voir des endroits qui sont saturés, des endroits qui ne le sont pas. Donc derrière se cache une notion de prix. On calcule un prix, parce qu'en économie on calcule toujours des prix, mais le prix, c'est la valeur qu'on attribue au bien. Et donc on est capable de voir un petit peu quelles sont les villes qui sont saturées, où est-ce qu'il faudrait rajouter des salles de travail dans certaines maternités, ce genre de choses. Donc on peut rajouter des contraintes, si on a le nombre de salles de travail dans chacune des maternités, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et l'autre application qu'on avait eue, c'est sur les stations essence. Puisqu'en fait, on a récupéré des données géolocalisées d'une application qui propose d'avoir le prix de l'essence. Donc vous êtes dans votre voiture, vous voulez savoir où est-ce qu'il y a de l'essence, c'est pas loin, et ils vous renvoient l'information. Donc nous, on ne sait pas ce qu'ils ont récupéré comme info, mais on sait qu'ils ont cherché. Donc ils étaient à cet endroit-là, et ils se sont posés la question, où est-ce que je vais trouver l'essence? Donc on se dit, il y a un consommateur qui est là, on a toutes les stations-service, et là on peut voir un petit peu où est-ce qu'ils auraient dû aller. Donc on a réussi comme ça à montrer qu'il y a certaines stations qui en fait pourraient proposer des prix plus élevés, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de consommateurs. Alors la question qui se cache derrière, c'est en fait, est-ce qu'il y a des ententes entre les stations-service, Donc ça c'est le problème classique de quand deux stations-service sont face à face, on peut suspecter qu'il y a des ententes entre elles. Et donc c'est ce qu'on essaie de démontrer parce que c'est quand même très très dur à démontrer. Donc on essaie de voir s'il y a une espèce de prix naturel compte tenu de l'offre et de la situation de l'offre et de la demande qui existe à cet endroit-là. Donc ça c'est les choses qu'on fait. Et juste en ouverture, parce que j'ai encore 30 secondes pour finir. Donc avec Ewen, on travaille un petit peu. Alors on a déjà travaillé un petit peu, donc toujours dans cet espace en dimension 2, on avait travaillé sur des cartes que vous connaissez tous, des notions de densité. Alors un travail qu'on avait fait il y a quelques temps, c'était d'essayer de corriger, parce qu'à l'époque on travaillait sur les accidents de la route, et donc on essayait de faire des corrections de bord, parce qu'en fait, quand on fait des estimations de densité classique, on a des problèmes d'effet de bord, donc on essayait de proposer une correction afin de tenir compte du fait que la plupart des villes, en tout cas en Bretagne, sont souvent au bord de la mer, pas par Rennes. Et disons qu'on a des grosses villes au bord de la mer, et que quand on fait une estimation standard de densité, on sous-estime très fortement sur les bords. Donc on a déjà travaillé un petit peu là-dessus. Et la question qu'on se posait maintenant, c'est est-ce qu'on ne veut pas passer à un autre niveau ? C'est que la dimension 2, c'est bien, mais depuis ce matin, tout le monde parle de la dimension temps. Et effectivement, c'est un problème assez fondamental sur lequel on voulait travailler. Alors, la dimension temps, moi, je l'ai découverte en discutant toujours avec Philippe Réca et avec Philippe Rivière, quand il m'avait parlé un petit peu des problèmes de choléra à New York. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est dans un superbe ouvrage sur les pandémies. Donc, il y a deux cartes qui ont été faites par les deux Philippe. Et en particulier, le point intéressant sur les épidémies de choléra, c'est que généralement, ça naît, en tout cas, c'est ce qu'avaient montré les travaux de Snow, c'est que ça naît à une source d'eau. Et donc, à partir du moment où on se rend compte qu'on a une épidémie, généralement, c'est trop tard. Donc, il faut essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle est partie. Donc, on a envie de remonter dans le temps. Donc, on est en train de travailler un petit peu en ce moment là-dessus. Je vous mets juste la copie d'écran, si vous voulez, les slides sont sur mon blog et vous pourrez les trouver. Mais disons qu'on essaie de travailler un petit peu sur des cartes dynamiques, donc on est en train de finaliser ça avec Ewen, donc sur donc en faisant du leaflet avec R, puisqu'on a eu tout à l'heure une intervention qui disait que c'était bien de faire du R, donc on s'y met. Et donc on a des cartes, on a du leaflet dynamique, donc on a une échelle de temps, puis on peut voir un petit peu comment les densités de cas de choléra se déforment, donc l'idée étant de partir effectivement de la grosse épidémie, puis de voir d'où est-ce qu'elle était partie. Et donc on peut commencer à imaginer des aspects, d'intégrer la dimension temps, je pense, dans des cartes, essentiellement avec ces aspects de cartes interactives qu'on peut mettre en ligne, où tout d'un coup on a la possibilité de jouer sur l'aspect temps. Voilà, moi je ne suis pas très fan des cartes en 3D, ou même des représentations en 3D, parce que je suis assez basique, je vois en dimension 2. Donc j'aime bien la dimension 2, mais quand on veut voir l'aspect temporel, on est un peu bloqué. Donc les cartes dynamiques sont une solution relativement intéressante. Alors, juste en guise de conclusion, en fait dans ce que je vous raconte, il y a un nouveau, en discutant un petit peu, quand j'ai balancé mon titre à Françoise, elle m'a dit « Ah mais attends, il y a un super bouquin à Jet là-dessus, sur les notions de réseau, effectivement. » Et il y a des bouquins qui existent effectivement en géographie qui parlent de ça, mais voilà, quand nous on a commencé à écrire notre article avec Alfred sur l'utilisation des réseaux routiers en particulier pour se rendre à la maternité, en économie, il n'y a absolument rien là-dessus. Donc j'ai l'impression qu'on a l'étape où les économistes sont en train de découvrir ce qui se faisait en géographie il y a 50 ans. Donc on a un peu de retard. Ben oui, ben je peux dire qu'en économie, on a 50 ans de retard. Donc on a 50 ans à combler, donc si vous voulez, on peut les faire un peu plus rapidement que ça. Mais il y a du boulot et je serais ravi de louer des participations pour qu'on travaille ensemble. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup. Donc voilà, on a fait le grand saut, effectivement, de la carte à la ligne. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
Merci déjà pour votre apport important. Je voulais simplement avoir votre avis sur la conception de la construction, la création des villes nouvelles en Chine. Personnellement, j'ai visité Tianfu, qui est la nouvelle ville qui est collée à Chengdu, et on a l'impression qu'il y a derrière la création d'une ville une théorie à caractère beaucoup plus philosophique que seulement architectural, je dirais, ou liée à l'économie. Et vous avez souvent des idées beaucoup plus précises que les miennes, je n'en ai pas.
Alors, juste pour info, moi j'ai un biais culturel fort, donc avant d'avoir... Je suis à Rennes, avant j'ai passé 4 ans à Montréal, mais avant j'avais vécu un an et demi en Chine, mais j'avais vécu à Hong Kong. Hong Kong est une ville très particulière, puisqu'il y a des fortes contraintes naturelles, et donc on ne peut pas s'étendre comme ça. Donc la ville se construit un peu comme elle peut, et en fait elle s'étend essentiellement vers les nouveaux territoires. Donc c'est une construction de ville qui est très 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 différente, effectivement, de la construction chinoise qui consiste à dire on va créer une ville de toutes pièces. Après le problème, c'est...
1 million d'habitants dans la ville.
Ouais, mais... Non, il y a l'aspect, alors l'aspect que j'ai... peut-être que c'était un peu sous-entendu, j'aurais dû plus insister là-dessus. Sur l'aspect temporel, c'est que la construction d'une ville est fondamentalement un problème dynamique. C'est que c'est quelque chose qu'il faut voir dans la durée. C'est qu'il y a effectivement une implantation alors soit de gens, soit de firmes, et ensuite, la dynamique va se mettre en marche. Donc on peut pas... Moi, j'ai beaucoup de mal, effectivement, avec cette ville où la notion de temps n'existe pas. Où tout d'un coup, on arrive et puis on crée la ville comme ça, et c'est ce qu'ils font. Ben oui. Donc moi, j'ai beaucoup... Enfin, voilà, d'un point de vue purement philosophique, j'ai vraiment du mal, parce que pour moi, une ville se crée... C'est un jeu, c'est un équilibre de jeu dynamique. Et arriver comme ça, en plaquant quelque chose, en disant ça sera la situation idéale, on arrive au problème d'ingénierie où on nous construit un escalier alors que personne ne le prend là, tout le monde monte là, et finalement, personne n'utilise...
C'est
qui a été fait, exactement. Mais après, voilà, je ne suis pas urbaniste.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres?
Bonjour. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit qu'il y avait... tout ce qui est la vie linéaire, la non-prise en compte de la vie par les économistes, etc. C'est dû à quoi ils ne sont pas non plus aveugles à ce point-là?
C'est une question ou une critique?
Et si je peux juste apporter un élément de réponse, c'est vrai que dans tout ce que tu as montré en géographie urbaine, ce sont des modèles qui sont très classiques. Et je pense qu'il y a eu une période où quand même les économistes et les géographes ont plus parlé,
ouais,
au moment de la révolution quantitative, où ils se sont retrouvés sur un certain nombre de questions et puis se sont reséparés parce que quand même les économistes sont avant tout statisticiens et ils n'aiment pas trop ces données géographiques qui comportent plein de biais et qui viennent perturber les modèles. Mais je pense que là, tu arrives à un moment où peut-être c'est là qu'ils se parlent le moins. Enfin, ça complète...
Ouais, mais c'est aussi pas moi. Alors, ce que je regarde, moi, c'est la ville théorique. Donc, effectivement, la ville théorique, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Donc, je pense, effectivement, quand tout d'un coup, on travaille sur cette ville-là, puis on nous dit, attendez, on va faire un cas réel sur une vraie ville, et là, on voit ce que c'est qu'une vraie ville. Je pense que les économistes ont dû se dire, on va peut-être réfléchir un petit peu. Donc, je pense que c'est surtout les économistes des transports, effectivement, qui ont été beaucoup impliqués sur toute cette communauté. Après, mon autre réponse serait aussi de dire, la ville linéaire, elle est bête, mais d'un autre côté, il y a plein de choses à faire autour. Et voilà, quand le papier de Fujita qui revient, donc c'est en 82, donc c'était quand même à peu près 50 ans après le papier d'Otling, qui continue à travailler sur cette ville linéaire et qui continue à sortir des choses. Je pense que j'ose pas imaginer le référé qui lui a dit tu pourrais faire un truc un peu plus réaliste. Et il dit bah, non, mais c'est bon, je peux faire encore un papier là-dessus, je peux trouver une autre hypothèse que je change. Et effectivement, il a pu vivre comme ça pendant pas mal. Cette ville linéaire a beaucoup vécu. Pour montrer quand même beaucoup de résultats un peu normatifs. Maintenant, son gros défaut, c'est, enfin, je pense que n'importe quel cartographe sera d'accord sur le fait qu'elle est un peu simpliste quand même, cette ville. Mais elle a suffi pendant assez longtemps.
Mais moi, enfin, je suis pas sûre. Il faut pas l'interpréter comme la ville linéaire. Ce qu'il y avait derrière, c'était qu'on prenait en compte les espacements. C'était une représentation de l'espace qui était les espacements.
Ouais.
Donc l'espacement, c'est une distance. Et pour des statisticiens, c'est super, c'est une variable.
Exactement.
Donc ça s'intègre dans un modèle, ça... mais je crois pas qu'il faille quand même résumer. Enfin, c'est...
Non, je résume un peu vite, j'ai 20 minutes. Hein.
Moi, défendre les économistes, c'est quelque chose, mais là, je suis obligée quand même.
Et puis,
vas-y.
Juste une chose pour vous rassurer, sur le lien entre la géographie et l'économie, à Paris 7 est montée depuis l'année dernière une licence de géographie et économie. Pas économie-géographie ou géographie-économique, mais géographie et économie. Tu as des enseignants.
Avec nous, mais je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant. On a enfin trouvé des thèmes pour discuter ensemble. Mais...
Merci.
Mais je propose, excuse-moi Thanas, ça t'ennuie que de réserver ta question pour la discussion un peu plus générale et la fin ?
Elle est spécifique.
Je laisse là.
C'est une petite question. Quelqu'un biais ? Parce que les biais, les modèles là, si on ne dit pas que c'est qu'un biais, on ne sait pas comment ça sort. Quelqu'un biais ? Quand on a une ville théorique et une ville réelle, entre guillemets, la notion de biais peut-elle exister dans le débat épistémologique, puisque la théorie se définit par soi-même, c'est suffit, la réelle aussi.
Oui, bah après, enfin. Et, tiens, ouais. Non, juste pour rebondir. Enfin, après, je pense que n'importe quel économète pourra dire, enfin, de la même manière qu'on peut critiquer cette ville linéaire parce qu'elle est très simpliste, mais qu'elle a quand même quelques conclusions fortement biaisées. N'importe quel économète dira le modèle linéaire, c'est débile. Rien n'est linéaire dans la vraie vie. Après, on passe à du non linéaire, mais c'est toujours le passage obligé avant d'aller plus loin. Donc, je continue à penser qu'on peut dire des choses et on peut dire beaucoup de choses avec un modèle linéaire. Mais après, il faut toujours garder en fait, effectivement, le fait qu'il y a des biais, il y a des limites. Et je pense que c'est la même chose sur ce genre de modèle. C'est bon, t'as tout.
Par contre, pour la définition, c'est bien sûr.
Oui, c'est ça. Les modèles, on les utilise aussi en géographie pour démontrer, c'est des expériences de pensée, quoi.